prenez soin de vous.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, 5 chefs d'État ouest-africains sont à Bamako pour tenter de trouver un accord de sortie de crise. En Côte d'Ivoire, le PDCI demande un report de la présidentielle. En République démocratique du Congo, les partisans du Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement, manifestent à Kinshasa. Nouvel échec des négociations pour une sortie rapide du Royaume-Uni de l'Union européenne. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Mali, 5 chefs d'État, notamment Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, Macky Sall, Mouamadou Bouhari et Mahamadou Issoufou, sont venus à Bamako pour tenter de décrisper la situation politique tendue. À leur hôtel, ils ont écouté tour à tour la majorité présidentielle, le mouvement du 5 juin, l'imam Mahamoud Diko et la société civile. En début de soirée, ils doivent faire la synthèse et propositions de sortie de crise. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
Pour cette médiation que certains qualifient de la dernière chance, c'est Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui est arrivé le premier à Bamako, suivi de Macky Sall. Il n'y a pas eu d'accueil exceptionnel, car dans les rues de Bamako, la situation était tendue entre les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta et les jeunes de M5-RFP. Les forces de l'ordre ont agi sans violence pour séparer les deux camps. Au dernier rond-point, avant l'hôtel des chefs d'État, se trouvait le collectif des jeunes qui soutiennent la libération de Soumaïla Sy.
Parce que nous pensons que ces chefs d'État peuvent puiser de leur influence auprès de Ibrahim Boubacar Keïta pour que Soumaïla soit libre. Soumaïla est détenu depuis 4 mois.
Côté échange avec les présidents, le M5-RFP avait un mémorandum. Dans ce document figure la demande du départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, alors que l'imam Mahamoud Diko, accompagné de Choguel Kokala Maïga et maître Ali Batili, ont été reçus par les 5 chefs d'État et n'ont pas évoqué le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Par ailleurs, un soldat français a été tué ce matin au Mali lors de combats entre les groupes armés terroristes, a annoncé la présidence française. Au Nigeria, 5 humanitaires, dont un employé de l'ONG française Action contre la faim, ont été tués par les djihadistes qui les avaient enlevés dans le nord-est du pays. Le président Mouamadou Bouhari a exprimé sa compassion pour les familles et a promis que les djihadistes seraient totalement éliminés. En Côte d'Ivoire, le PDCI, principal parti d'opposition, souhaite un report de la présidentielle d'octobre en vue d'ouvrir des négociations pour la mise en place d'une commission électorale crédible. Eric Manirakiza.
Jean-Louis Bion, secrétaire exécutif du PDCI, plaide pour un report qui n'excéderait pas 12 mois. Il faut que le pouvoir en place accepte de voir l'évidence qu'avec cette commission électorale indépendante, nous n'aurons pas d'élection crédible, a-t-il ajouté. La Cour africaine des droits de l'homme, saisie par l'opposition ivoirienne, a jugé il y a une semaine que les commissions électorales locales étaient déséquilibrées en faveur du parti au pouvoir qui en préside une large majorité. Le gouvernement ivoirien estime, lui, que cette Cour a jugé que la commission électorale indépendante était équilibrée et indépendante. Le PDCI désignera son candidat à la présidentielle lors d'une convention éclatée qui doit s'ouvrir samedi. Son président, l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, 86 ans, est le candidat unique après l'invalidation d'une candidature rivale.
En République centrafricaine, affrontement entre les membres d'un groupe armé et des casques bleus dans l'ouest du pays. La semaine dernière, 3 rebelles ont été tués par des casques bleus rwandais à Gedze, d'après le porte-parole de la MINUSCA. Le groupe des 3R, très présent dans l'ouest et le nord-ouest, a suspendu début juin sa participation à l'accord de paix de février 2019. En République démocratique du Congo, les partisans de l'ancien président Joseph Kabila ont manifesté pour exiger le respect de la Constitution, alors que la tension monte au sein de la coalition avec le camp du président Félix Tshisekedi. À Bukavu et à Goma, les partisans de Vital Kamerhe ont marché pour exiger sa libération. Le point avec Eddy Issango.
Des nombreux partisans du Front commun pour le Congo ont marché à Kinshasa et dans certaines villes du pays. Brandissant drapeaux et habillés aux couleurs de leur plateforme, ils exigent le respect de la Constitution par tous et surtout par les Kacha, la famille politique du président Félix Tshisekedi, selon le coordonnateur du FCC, Néhémie Moulania. Les FCC donnent pour exemple les ordonnances présidentielles récentes sans la signature du Premier ministre. Candidat du FCC à la dernière présidentielle et secrétaire permanent du PPRD, les partis de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari explique que la marche était aussi pour dire non aux arrestations arbitraires et intimidations. Les partisans de Kabila affirment vouloir démontrer que leur majorité au Parlement n'est pas factice. Dans l'Est, les partisans de Vital Kamerhe ont marché à Bukavu, dans le Sud Kivu, pour exiger sa libération et leur manif a été dispersée à Goma, dans le Nord Kivu.
Toujours en RDC, le groupe armé M23 a nié toute responsabilité dans l'attaque d'une position de l'armée congolaise ayant coûté la vie hier à 3 soldats dans la province du Nord Kivu. Eli Moutela, le porte-parole du mouvement, a affirmé qu'il n'y avait pas de combat entre le M23 et les FRDC. Au Maroc, les autorités ont décidé d'interdire les déplacements hors de la ville de Tanger pendant l'Aïd. Après l'apparition de nouveaux foyers de contamination du Covid-19, les autorités avaient annoncé le 13 juillet un reconfinement strict pour environ 1 million d'habitants dans le grand port de Tanger avant d'assouplir les mesures face aux manifestations de la population. En Afrique du Sud, près de 13 000 agents de santé ont été infectés, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Santé. L'Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60% du nombre de décès au cours des dernières semaines. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pandémie de coronavirus, le chef de l'Organisation mondiale de la santé a rejeté jeudi comme fausses les allégations du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, selon laquelle il devait sa position à un accord avec la Chine. Ces commentaires sont faux et inacceptables et sans aucun fondement, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle mettant en garde contre la politisation de la pandémie. Aux États-Unis, particulièrement au sud, la situation reste très préoccupante. Le pays a enregistré hier, pour la 9e journée consécutive, plus de 60 000 nouveaux cas. Le président Donald Trump a admis une hausse inquiétante des cas dans le sud. Conséquence, le chômage est reparti à la hausse. Un peu plus de 1,4 million de nouvelles demandes d'allocation chômage ont été déposées la semaine dernière. C'est la première fois que le chômage est en hausse sur une semaine depuis qu'il avait entamé sa lente décrue début avril. Dans le même temps, le Congrès tente de trouver un terrain d'entente pour prolonger une aide cruciale pour les chômeurs qui va s'arrêter dans une semaine. L'Europe a passé aujourd'hui le cap des 3 millions de cas. La première ministre belge Sophie Wilmès a annoncé un renforcement des mesures avec le port obligatoire du masque dans tout endroit à forte fréquentation, marchés, rues commerçantes, hôtels, restaurants et cafés. La Grande-Bretagne et l'Union européenne se sont quittés jeudi sur un nouveau constat d'échec à l'issue d'une session de négociations sur leurs relations post-Brexit. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ce nouveau blocage intervient à la suite de 3 jours de discussions à Londres. Le négociateur européen Michel Barnier a jugé peu probable en l'état de trouver un accord. Peu de progrès ont été effectués sur les conditions de concurrence équitable et la pêche. avant d'autoriser à Londres un accès au marché européen sans droit de douane ni quota. Les 27 veulent absolument éviter une concurrence jugée déloyale à leurs portes. De son côté, le Royaume-Uni veut reprendre le contrôle de ses eaux poissonneuses et en limiter l'accès aux pêcheurs de l'Union. Selon Michel Barnier, le Royaume-Uni cherche une exclusion quasi totale des bateaux de pêche européens des eaux britanniques et c'est tout simplement inacceptable. Le négociateur britannique a reconnu l'échec des discussions, mais a affirmé qu'il n'était pas question de quitter la table des négociations. Les discussions doivent se poursuivre la semaine prochaine avant une autre session à partir du 17 août. Les deux parties cherchent à définir le cadre de leurs nouvelles relations et nouer un accord de libre-échange à l'issue de la période de transition qui se termine le 31 décembre.
En Afghanistan, les talibans se disent prêts à des discussions avec le gouvernement afghan le mois prochain si l'échange de prisonniers est achevé. Selon un porte-parole taliban, les négociations pourraient commencer peu après les fêtes musulmanes de l'Aïd à la fin de ce mois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
La Banque africaine de développement a approuvé un prêt d'environ 300 millions de dollars au gouvernement sud-africain pour l'aider à lutter contre la pandémie de COVID-19. L'économie sud-africaine était en récession bien avant la pandémie. Selon les prévisions, le produit intérieur brut du pays va diminuer d'au moins 7% cette année et un déficit budgétaire d'environ 15% du PIB. Le gouvernement soudanais a annoncé qu'il allait dévaluer sa monnaie et supprimer progressivement les subventions sur l'essence et le diesel en raison de l'énorme déficit budgétaire causé par l'arrêt de l'activité économique. Selon le ministre des Finances, les revenus de l'État ont baissé de 40%. Le dollar s'échange à 55 livres soudanaises contre 140 sur le marché parallèle. Le taux d'inflation a atteint 136%, aggravant les difficultés économiques du Soudan. Quelques 3 milliards de personnes parmi les plus pauvres de la planète devraient recevoir un revenu minimum provisoire pour ralentir la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'estime le Programme des Nations Unies pour le développement, pour qui environ 199 milliards de dollars par mois pourraient fournir un revenu minimum garanti pendant 6 mois aux 2,7 milliards de personnes vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté dans 132 pays en développement.
Et maintenant, la passeport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Je vous propose un point sur les championnats africains de football pour commencer. Plusieurs championnats majeurs sont sur le point de reprendre, à commencer par celui du Maroc lundi prochain, qui sera suivi de ceux de Tunisie le 2 août et d'Égypte le 6 août. Sur fond de poursuite de la pandémie de nouveau coronavirus, au Maroc, le Wydad Casablanca, champion en titre, menait la danse au moment de l'arrêt de son championnat. En Tunisie, l'Espérance Tunis, quadruple championne d'Afrique, compte 44 points, soit 10 longueurs d'avance sur le CS Sfaxien, à 10 matchs de la fin. En Égypte, Al Ahly est en tête à mi-championnat avec 49 points, loin devant Al Mokaouloun, 33 points. En Algérie, la priorité actuelle est de terminer la Coupe d'Algérie. Sans donner de date, les responsables du football algérien espèrent que cette compétition puisse reprendre bientôt par les quarts de finale retour. Les footballeurs de la Zambie ont eux repris le chemin des stades dimanche dernier. En athlétisme, le Kenya Elijah Manogoi, 27 ans, champion du monde du 1500 mètres à Londres en 2017, a été provisoirement suspendu par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour manquement à ses obligations de localisation antidopage. Manogoi avait décroché l'argent des mondiaux 2015 à Pékin, avant de remporter l'or mondial 2 années plus tard à Londres. Il a renoncé aux mondiaux 2019 à une dizaine de jours de la compétition en raison d'une blessure à une cheville. En 2016, il n'a pas pris le départ de sa demi-finale des Jeux Olympiques de Rio. La star du sprint américain Christian Coleman, champion du monde en titre du 100 mètres, ou encore la barienne Salwa Eid Nasser, championne du monde du 400 mètres, ont été provisoirement suspendus par l'AIU en juin pour no-show. Selon les règles antidopage en vigueur, les athlètes doivent indiquer leur localisation géographique aux instances de lutte contre le dopage 90 jours à l'avance afin de permettre des contrôles inopinés hors compétition chaque jour de l'année. Trois manquements à ses obligations en 12 mois constituent une infraction anti-dopage. Toujours en athlétisme, le meeting de Gateshead en Grande-Bretagne comptant pour la Ligue de Diamants qui avait été décalée au 12 septembre est finalement annulé. Il s'agit du 5e meeting de la Ligue de Diamants qui est définitivement annulé après Paris, Eguigny, Rabat et Londres. Selon le calendrier proposé par World Athletics, le circuit devrait débuter le 14 août à Monaco, suivi du meeting de Stockholm. Doivent ensuite suivre Bruxelles, Rome, Naples et Shanghai en septembre, puis Doha en octobre, avant de se terminer par un meeting en Chine, dans une ville qui reste à déterminer.
Merci à toi. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Sénégal, l'Aïd, communément appelé Tabaski, sera célébré le vendredi 31 juillet 2019. À l'occasion, chaque année, les vendeurs de moutons s'installent généralement un peu partout dans la ville sans des mesures d'hygiène strictes. Durant cette période, marquée par la pandémie de Covid-19, quelles sont les mesures prises pour protéger vendeurs et consommateurs? Les réponses avec notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
La pandémie de la Covid-19 a durablement marqué les esprits. Chez les vendeurs de moutons, les mesures exceptionnelles imposées par la maladie sont respectées par certains. Dan Ning explique les précautions que lui et ses associés vendeurs ont déroulées pour assurer la sécurité des bêtes et des clients.
Ici, c'est nous qui élevons les moutons. Ils sont donc différents de ceux qui viennent des régions et de la sous-région. Chaque mouton est suivi par un vétérinaire. Une fois sur le point de vente, on continue cette surveillance. Même pour les moutons, on respecte la distanciation sociale. À son arrivée, chaque mouton est mis à l'écart pendant 2 jours pour voir s'il ne souffre pas de maladie avant de le mettre dans le troupeau. Les clients aussi ont peur si les mesures barrières ne sont pas respectées et on fait de notre mieux pour les mettre à l'aise en se conformant aux gestes barrières.
D'autres vendeurs de moutons sont moins prudents que Dan. À Guédiouaï, dans la banlieue de Dakar, les mesures barrières ne sont pas du tout respectées et les vendeurs comme Alpha Dem l'assument.
Actuellement, on est en plein dans la vente des moutons et pour dire vrai, on a même oublié l'existence du coronavirus parce qu'il n'y a aucune mesure barrière prise. Pour dire vrai, si les clients viennent ici, on ne prend aucune mesure barrière. Quand j'ai levé les moutons à la maison, je les ai vaccinés. Mais depuis qu'on a rejoint ce point de vente, il n'y a plus de suivi.
Pour mettre de l'ordre dans les points de vente, les autorités ont mis en place un protocole strict avec des mesures barrières que devront désormais respecter tous les vendeurs. Dr Mamoudou Ousseynou Sakho, le secrétaire général du ministère de l'Élevage, affirme que tout le territoire national est concerné.
Ce protocole, nous l'avons partagé en réunion de coordination et nous l'avons divisé aux 250 postes vétérinaires, 45 départementaux, les 14 régionaux, pour que ce protocole soit véritablement suivi de manière rigoureuse. Aujourd'hui, les agents vétérinaires sont très outillés pour participer à cette sensibilisation, afin que nous freinions la propagation du virus, que nous rompions donc la chaîne de transmission.
Malgré la pandémie de la Covid-19, les autorités du ministère de l'Élevage assurent que le marché local sera suffisamment approvisionné en moutons pour la fête de l'Eid. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage soutient aussi que les points de vente sont tous excédentaires et que chaque Sénégalais devrait avoir un mouton pour la Tabaski. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24. Former des codeurs informatiques camerounais plus compétents et qualifiés, c'est le défi que se sont fixés les écoles de codage créées par de jeunes entrepreneurs technologiques locaux. Ces écoles offrent des cursus de formation de quelques mois avec l'appui de partenaires nationaux et étrangers. Adultes et enfants peuvent prendre des cours même en étant complètement débutants. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, a pu se rendre dans l'une de ces écoles qui vient d'ouvrir ses portes.
Aujourd'hui, à l'ère du numérique, d'avoir des compétences de coding, c'est extrêmement important.
William Elon est cofondateur de l'école de codage informatique Developers Institute Cameroon. À la base, il est promoteur d'une start-up de conception et d'emballage de drones. un savoir-faire qu'il veut transmettre à d'autres jeunes, notamment dans le domaine du codage informatique. William Elon.
L'idée, c'est de permettre à monsieur tout le monde de créer des programmes, des logiciels, des outils à travers des lignes de code qui vont permettre d'exécuter certaines tâches. Et c'est ce qu'on appelle le codage informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développeur est le socle sur lequel l'économie numérique est en train de se développer partout dans le monde.
À Douala, la capitale économique, une jeune Camerounaise, Evelyne Bakop, de MB Code Consulting, met justement un accent sur la formation gratuite des jeunes, des sessions de formation au métier du numérique qui dure 7 mois.
Nous avons un effectif de 20 personnes qui a démarré la formation. Parmi ces 20 personnes, on a 4 filles. Tous nos stagiaires n'avaient, avant de rentrer en formation, aucune compétence en matière informatique.
Ils font même recours à l'expertise internationale afin de mieux outiller les apprenants. Ariel Kitio, 27 ans, dirige à Yaoundé le projet VLAB, dédié au codage informatique sur deux langages de programmation, à savoir JavaScript et Python. Une formation conçue en partenariat avec des Israéliens.
Deux parcours métiers sont proposés aux jeunes Camerounais. Le premier parcours, ce qui permet en fait de créer le moteur derrière une application, et le parcours des métiers de l'interface, ce qui fait joli, ce qui fait attractif. C'est une formation accélérée de 12 semaines qui va permettre aux jeunes d'avoir des compétences de haut niveau.
Le codage informatique attire aussi les enfants. Plus d'une dizaine, dont l'âge varie entre 7 et 13 ans, suivent actuellement des cours d'initiation à Yaoundé. Excel Kitio est leur monitrice.
Tout à l'heure, on présentait les problèmes aux enfants à travers des images. Ils devaient donc observer chaque image, dire en quoi l'image consiste, ce qu'ils sont en train de voir. Ensuite, dire le problème. Et en plus, après, penser à une idée innovante pour résoudre ce problème.
L'économie numérique offre de belles opportunités d'insertion socio-professionnelle. Le codage informatique, par exemple, est une niche pour le taux emploi, souligne le concepteur camerounais de drones, William Elon.
Aujourd'hui, vous pouvez avoir la possibilité de créer même votre propre entreprise. Nous utilisons aujourd'hui Facebook. Derrière Facebook, ce sont des milliers de développeurs. Donc, ce sont des compétences concrètes, ce sont des compétences pratiques qu'on peut acquérir ici.
Le Cameroun prévoit de créer 50 000 emplois dans le numérique cette année. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, certains jeunes sont sceptiques face à la pandémie du coronavirus. Pour eux, la maladie du Covid-19 n'est pas présente dans le pays. D'autres, au contraire, veulent sensibiliser sur les dangers du coronavirus et attirer l'attention de leurs compatriotes. Reportage à Brazzaville de notre correspondant Arsène Séverin.
Nous sommes au marché total, l'un des plus grands de Brazzaville. Le photographe le bon Chansar Ziavoula se sert de son appareil pour attirer l'attention de jeunes qui ne croient toujours pas à l'existence du coronavirus.
La personne est là, marque sa présence dans un milieu public, habillé en blanc, avec son masque et tout, et les gens viennent finalement autour. Et là, vous avez des gens qui te posent des questions. Il y a le coronavirus, et c'est une façon pour moi aussi, en tant qu'artiste, de porter un regard dans ma société. Donc les gens me posent des questions, et tout de suite, je réponds. Je dis oui, la maladie existe.
Beaucoup de Congolais, en effet, développent un scepticisme face à la Covid-19. Les jeunes sont en première ligne.
Ici, chez nous, on n'a jamais vu. On croit quand même. Comme à l'église, on nous dit que Dieu existe. On croit, mais on ne l'a jamais vu.
Regardez seulement la condition de laquelle les gens circulent dans les marchés, dans les bus. On nous dit, dans les bus, il faut garder les distances. Mais quand nous nous battons pour entrer dans un bus, on s'en fout. Ah donc, pour d'autres, c'est un mythe. Même les chiffres que nous voyons à la télé, on se dit que c'est juste pour amuser le peuple.
À l'instar du photographe Ziavoula, des jeunes sensibilisent d'autres jeunes à la présence effective de la Covid-19 au Congo. Johan Ibiliki, président de l'Association congolaise pour l'assistance sociale.
Nous avons organisé certaines activités afin de sensibiliser la population en général et les jeunes en particulier sur l'existence de cette maladie au Congo et comment il fallait faire pour se protéger. Ce que je peux dire à la jeunesse congolaise qui représente plus de la moitié de la population, c'est de faire preuve de civisme et de responsabilité face à cet ennemi invisible.
Thalès Zokele est artiste.
Il y a plusieurs interrogations, mais après nous, on ne peut pas toujours tomber dans cette naïveté. Il est temps de prendre ce problème à bras-le-corps.
Selon plusieurs témoignages recueillis dans la ville, le scepticisme se développe dans la société parce que les médias locaux ne montrent pas les malades de Covid-19 et que la prise en charge des cas déclarés n'est pas rassurante. Des propos que rejette la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo.
On a toujours tendance à être dans la rumeur, dans le trafic d'informations, contrairement à des personnes mal intentionnées qui font du trafic d'informations sur les réseaux sociaux. Nous avons bien des respirateurs, ils sont là, il y en a qui sont installés, il y en a qui ne le sont pas, tout simplement parce qu'il y a encore des travaux.
Au soir du 22 juillet, le Congo-Brazzaville compte 2851 cas, dont 50 décès. Le pays est toujours sous l'état d'urgence. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un troisième mandat? Le débat est relancé après la mort du premier ministre Amadougou Koulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Ceux au sein de son parti qui se prononcent en faveur de sa candidature estiment que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à l'ancien président Henri Konan Bédié. Rendez-vous jeudi 23 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump veut envoyer des agents fédéraux à Chicago et dans d'autres villes américaines, dirigées par des maires démocrates, pour faire face à ce qu'il appelle le crime et l'anarchie totalement hors de contrôle. Cet effort de Trump est conforme à son discours de campagne selon lequel le pays est dans le chaos et a besoin d'un candidat qui va rétablir l'ordre public. Patsy Widakuswara, correspondante à la Maison Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les manifestations de Black Lives Matter se poursuivent aux États-Unis depuis la mort de George Floyd au mois de mai lors de son arrestation par des policiers blancs à Minneapolis. La plupart de ces manifs sont pacifiques, mais certaines sont marquées par des pillages et autres actes de vandalisme. Le président Donald Trump sévit avec une campagne de police fédérale appelée Opération Légende.
Cette effusion de sang doit prendre fin. Cette effusion de sang prendra fin. Aujourd'hui, j'annonce une vague de force fédérale dans les communautés en proie à des crimes violents.
Monsieur Trump envoie des centaines d'agents fédéraux à Chicago, Albuquerque et dans d'autres villes qui, selon lui, ont besoin d'aide pour arrêter le crime. Dans le passé, les responsables locaux ont demandé l'aide fédérale pour apaiser les troubles, mais les maires de 15 villes, dont Chicago, ont condamné cette semaine ce qu'ils appellent les déploiements unilatéraux de l'administration Trump. Lori Lightfoot est le maire démocrate de Chicago.
Des agents en cagoule se déplaçant dans des camionnettes, enlevant les gens de la rue, les privant de leurs droits constitutionnels, ce n'est pas à quoi ressemble une démocratie. Et nous n'allons pas avoir cela dans la ville de Chicago.
Monsieur Trump a envoyé des agents fédéraux à Portland et à Seattle, mais ils n'ont pas calmé les tensions. Lori Woods est professeure de sociologie à l'Université Vanderbilt.
Envoyer des agents pour aller arrêter un groupe de personnes peut vous donner un moment de répit, mais cela ne vous apportera pas une paix durable.
L'envoi de la police fédérale est déjà contesté devant les tribunaux, mais cela peut aussi offrir un gain politique. Biden s'oppose au retrait du financement de la police. Il se dit en faveur du conditionnement de l'aide fédérale à la police. La campagne de Trump pousse le récit montrant un pays dans le chaos et qui a besoin d'un candidat pour restaurer la loi et l'ordre. So enseigne la politique raciale et ethnique à l'Université de Princeton.
Les candidats aux élections utiliseront souvent les conflits, des choses comme les conflits raciaux ou les émeutes interethniques, pour susciter le soutien de leur camp. Et nous avons déjà vu quelque chose comme ça, où la campagne Trump utilise des images de manifestations dans des endroits comme Portland dans leur publicité de campagne.
Malgré toute la rhétorique sur l'augmentation des crimes violents aux États-Unis, les données du FBI, la police fédérale, montrent que dans beaucoup de grandes villes américaines, il y a moins de criminalité aujourd'hui qu'il y a quelques décennies.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Mich Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Moragibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.